terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Ikuala et son équipe. Né au Québec tous les dimanches de 15h à 17h sur CIBL.
Je suis très heureux de recevoir Patrick Mbeko. Bonjour Patrick.
Bonjour Cyril.
C'est parce qu'il faut que je dise ça aux gens tout de suite. T'attraper est très difficile. C'est toujours entre deux avions. Une conférence par-ci, voilà, aller faire des conférences, inviter dans diverses choses. Donc c'est très difficile de te recevoir. Patrick Mbeko, analyste, moi je dis, on dit géopoliticien. Je dis toujours, c'est quelqu'un qui met la géopolitique dans tout. Dans tous les aspects de la société, avec une forte spécialisation sur l'Afrique. Je pense aux nombreux livres que tu as écrits déjà concernant les différentes guerres, le Canada en Afrique, mais toutes les guerres qui ont eu lieu dans les Grands Lacs, ces interventions-là. En ce moment, d'ailleurs, tu es en train de terminer l'ouvrage. C'est terminé.
Terminé.
Mm-hmm. Qui portera sur quoi ?
Mais c'est sur la région des Grands Lacs, mais avec une nouvelle perspective, une perspective totalement nouvelle qui n'a pas été abordée jusqu'ici dans la littérature scientifique et même journalistique.
Est-ce qu'on en dit un mot ?
Non, je préfère
parce que c'est vu la façon dont ça a été dit, j'ai senti que ouais, il y avait un secret à garder. J'ai voulu absolument qu'on se parle parce que je l'ai dit en début d'émission, la CAN se termine, la Coupe d'Afrique des Nations, et où évidemment il y avait l'équipe de la RDC, les Léopards, avec une prestation pour moi admirable. Ils finissent en demi-finale, ils auraient même pu monter sur la troisième marche. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais ce qui a surtout frappé le monde au-delà de leur prestation sportive, c'est le geste des joueurs qui se fermaient la bouche et mettaient un signe de revolver sur la tête en solidarité avec ce qui se passe dans l'est du Congo, en disant, en condamnant ou en invitant les gens à dire vous êtes silencieux sur ce qui se passe à l'est du Congo. Patrick Mbeko, on vit un drame, peut-être que j'en fais aussi partie dans la mesure où je suis un peu complice peut-être de cette situation-là, mais on parle du Congo une fois et puis après on oublie complètement et on passe à autre chose ou alors on va vers des conflits qui semblent d'ailleurs les plus intéressants, j'ai envie de dire, pour les médias. Est-ce que c'est lié à la complexité de ce conflit-là ou c'est juste parce que le Congo est loin ? Je vais le dire différemment. Aujourd'hui, on sait qu'il y a d'énormes problèmes, des troubles, de la guérilla, des guerres dans l'est du Congo. On nous parle du M23, qui serait une forme de milice soutenue par l'État du Rwanda et même celui de l'Ouganda, et donc qui contrôlerait toute cette zone de l'est sur laquelle le président de la RDC, Tshisekedi, n'a pas de mainmise. Et c'est ça qui fait que des populations subissent des déplacements. C'est quand même l'une des régions où il y a le plus grand nombre de déplacés. Ça n'a pas l'air comme ça. Je ne parle même pas des morts. Et jusqu'ici, la communauté, alors je fais de grosses guillemets, internationale, ne réagit pas. La zone est l'une des zones les plus riches. Le sous-sol est l'un des sous-sols les plus riches au monde. Et donc, il y a une convoitise énorme de la part de grandes puissances comme de puissances autour du Congo. Voilà, toutes ces puissances-là qui sont attirées. Et ce qu'on déplore, c'est l'impuissance du pouvoir central congolais. Est-ce que quand je dis ça, J'ai présenté la situation. Ce que je souhaite, c'est que pour une zone sur laquelle tu travailles beaucoup, tu as beaucoup travaillé, tu nous dises un peu, comme des gens qui ne savent pas, qu'est-ce qui se passe au Congo ?
Mais il y a... D'abord, merci pour l'invitation. Il y a en RDC à l'Est particulièrement, il y a plusieurs groupes armés. C'est pas le M23 n'est pas le seul groupe armé qui règne dans la région. C'est le plus important parce qu'il est soutenu par un pays... qui est le Rwanda, avec des moyens conséquents. Sinon, à l'est du Congo, aujourd'hui, il y a une centaine de groupes armés, mais qui ne jouent pas le même rôle, qui n'ont pas les mêmes ambitions et les mêmes objectifs. Dans le cas du M23, c'est particulier parce que l'apparition de ce groupe s'inscrit dans la droite ligne des guerres de déstabilisation que connaît la RDC depuis 1996. Mm-hmm. Comme on le sait, la RDC, avant, c'était le Zaïre. En 1996, il y a une guerre qui est pilotée... qui est piloté par le Rwanda, l'Ouganda, avec la bénédiction des États-Unis. Et cette guerre va mener à la chute du président Mobutu de l'époque. Et une fois Mobutu tombé, Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir. Mais un an et demi après son arrivée au pouvoir, une nouvelle guerre éclate avec encore une fois le soutien du Rwanda. Pourquoi ? Parce que Laurent Désiré Kabila avait simplement décidé de se détourner de ceux qui l'ont fait roi. En l'occurrence, le Rwanda, l'Ouganda et les États-Unis, les multinationales qui étaient là-bas. Parce qu'il faut rappeler que dans la première guerre du Congo en 1996, les rebelles avançaient avec le soutien de l'armée rwandaise, de l'armée ougandaise et même l'armée il y avait même l'armée de l'Angola aussi qui s'était impliquée à cette époque-là. Au même moment, les compagnies minières occidentales signaient des contrats miniers avec les groupes rebelles, ce qu'on n'avait jamais vu auparavant dans l'histoire du continent africain.
Avec des groupes rebelles, hein, pas avec...
Exact, pas le gouvernement pas le central, gouvernement. Mais le groupe rebelle qui contrôlait les espaces qui avaient été conquis. Mmh. Et donc, on a eu ça. Et quand Kabila arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait ? Il décide de renégocier ces contrats qui étaient des contrats Léona. Mmh. Il décide aussi, il a demandé au Rwanda, à l'Ouganda de regagner leur pays. Et donc, Kagame, qui est à l'époque le vice-président, mais c'était le véritable homme fort du Rwanda, n'a pas apprécié. Et c'est de cette désapprobation que va partir la deuxième guerre du Congo, le 2 août 1998. Mmh. Et puis, il y a eu par la suite la signature des accords de paix en 2003 entre la RDC et les pays voisins, sous le parrainage de ce qu'on appelle la communauté internationale. Mmh. Et aussi, il y avait aussi l'Union africaine. Et depuis, le Rwanda s'est retiré officiellement du Congo, mais a créé un système de déstabilisation à travers des groupes armés qu'il va créer, instrumentaliser. Mmh. Et donc, le M23 est l'un de ces groupes. Lui-même, le M23 découle de l'ancien CNDP, qui était un groupe rebelle, entre guillemets, encore une fois, créé par le Rwanda, dans une certaine mesure avec le concours de l'Ouganda, pour déstabiliser, mais surtout contrôler l'Est du Congo, qui est riche en ressources naturelles. Mmh. Parce qu'il faut garder à l'esprit que dans toutes ces guerres, le Rwanda a toujours eu un objectif, c'est de mettre la main sur les innombrables richesses de l'Est congolais, quitte à contrôler cette partie, et plus tard le greffer
à son territoire.
À son territoire. Ouais. Et je rappelle d'ailleurs qu'à l'époque, pendant la deuxième guerre du Congo, qui avait fait des millions de morts, déjà à l'époque, selon l'International Rescue Committee, 5,4 millions de morts, ça c'est en 2004, ça c'est le rapport de 2004. Les Nations Unies ont enquêté. Il y avait une équipe d'enquêteurs des Nations Unies sur place, déléguée par le Conseil de sécurité. Mmh. Ils ont découvert qu'au ministère de la Défense du Rwanda, il y avait ce qu'on appelait le Congo Desk. Donc c'était un bureau qui s'occupait de la guerre au Congo et de l'exploitation des ressources naturelles.
Et spécifiquement
sur le Congo. Congo. Exactement. Donc on appelait le Congo Desk, le bureau Congo, qui était à l'époque dirigé par... il y avait Dan Munyaneza, mais il y avait aussi des officiers supérieurs de l'armée rwandaise, et c'est Kagame qui chapeautait. Et donc... il y a eu des pressions internationales importantes. Kagame a été obligé de retirer ses troupes, mais en changeant de stratégie. Donc, ils ont laissé sur place des tas de groupes armés qui sont en réalité des obligés, qui dépendent de l'armée, des commandements qui proviennent de l'armée rwandaise. Mmh. Et donc, le M23 est l'émanation d'un de ces groupes-là.
Qu'est-ce qui fait, question très naïve, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'armée de Tshisekedi, donc le président réélu, là, en plus du Congo, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il n'arrive pas à reconquérir ce territoire ?
Il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'il y a un problème structurel au niveau de l'État congolais. Les dirigeants congolais, je l'ai toujours dit, ont une appréciation de la problématique qui est problématique. Okay. C'est-à-dire que la compréhension du conflit n'est pas la bonne. Elle est très problématique. Elle ne permet pas de résoudre le problème de fond. Parce que lorsque la prémisse est faussée, vous conviendrez avec moi qu'il est difficile d'apporter des solutions viables à un raisonnement qui est faussé. La deuxième chose qu'il faut garder à l'esprit, et ça c'est le plus important, c'est la chose la plus importante je crois, c'est que à travers les guerres successives que le Rwanda a menées au Congo depuis 1996, ces guerres lui ont permis d'injecter des hommes dans l'appareil sécuritaire et civil congolais.
Okay.
C'est très important de le dire parce que je vous rappelle que tous les groupes armés qui ont été créés, des rébellions qu'on appelait, c'était des rébellions qui étaient en réalité des groupes rwandais, dirigés par des Rwandais, dans lesquels on a injecté des Congolais de service pour permettre de congoliser, entre guillemets, ces rébellions qui étaient en réalité l'émanation du Rwanda. Et ce que je dis, je ne l'invente pas, si vous lisez le livre de Théogène Rudasingwa, qui était le directeur de cabinet de Paul Kagame, qui était l'ambassadeur du Rwanda à Washington, il le dit, notre objectif quand on a fait la guerre au Congo, c'était de congoliser le conflit, en faisant en sorte que l'on parle d'un conflit congolo-congolais, alors qu'il s'agissait en fait d'une agression extérieure rwandaise, déguisée en rébellion congolaise. Donc, à travers ça, quand il y a eu le processus de paix, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que la partie congolaise se retrouvait autour de la table avec des soi-disant Congolais qui représentaient des groupes armés qui étaient en réalité des Rwandais, dirigés par le Rwanda. Et à travers ça, on a mis en place une armée nationale avec les éléments des groupes armés, des rébellions qui ont été injectés dans l'armée nationale congolaise. Ce qui fait que le Rwanda a réussi à noyauter l'armée congolaise, les structures militaires et civiles, de sorte à les contrôler de l'intérieur d'une certaine manière. Ce qui fait que, quand il y a la guerre contre des éléments rwandais ou des éléments pilotés à partir de Kigali, il est difficile pour l'armée congolaise d'avoir une certaine cohérence dans la stratégie à articuler face à ces gens-là. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut aussi rappeler quand même la responsabilité des élites politiques et militaires congolaises, parce que c'est facile d'accuser le Rwanda, mais encore faut-il aussi attirer l'attention sur la responsabilité des hommes politiques et des militaires congolais qui ont joué le jeu du Rwanda dans une certaine mesure et qui aujourd'hui, pour des questions de positionnement, d'enrichissement personnel, jouent le jeu de l'agresseur rwandais. Mmh. Donc c'est à ce niveau, c'est ce qui permet de comprendre la difficulté dans laquelle se trouve aujourd'hui le gouvernement congolais qui a en son sein des gens qui sont soupçonnés de rouler pour l'ennemi.
Ah oui, donc je l'ai dit que c'était quelque chose de complexe, mais ça se voit. J'ai lu une analyse selon laquelle on était en train de repartir, mais à petits pas, vers un conflit séculaire dans cette région-là qui opposait non pas les Tutsis aux Hutus, mais Tutsis aux Bantous. Est-ce que ça a du sens? Quand on sait que tout ça, en fait, c'est grosso modo, c'est des peuples, il y a certains peuples
mais vous savez,
séparés.
Justement, d'ailleurs, vous allez le voir dans le livre que je vais publier, j'essaie d'expliquer d'ailleurs que c'est une lecture qui est en apparence vraie, mais en fait qui ne repose pas sur des éléments attestés sur le plan historique et factuel. Okay. Pourquoi ? Parce qu'il est vrai qu'il y a eu un projet d'un groupe de Tutsis, pas de tous les Tutsis, parce que ne partagent pas l'opinion ou les stratégies de Kagame. Mmh. C'est qu'il y a eu un groupe de Tutsis qui est venu d'Ouganda. Kagame est un Tutsi qui était en Ouganda. Ouais. C'était des militaires qui appartenaient à l'armée ougandaise, parce que lui, il est descendant des gens qui sont en exil en 59 après la révolution sociale Hutu au Rwanda. Et ces Tutsis avaient un projet de créer une sorte d'empire dans la région. Ouais. Et ça a été... Il y a des documents qui existent qui montrent cela. Et eux, dans leur stratégie, ils disent qu'il y a eu c'est un projet Tutsi, entre guillemets, mais ils n'ont pas hésité à sacrifier les Tutsis qui ne partageaient pas ce projet. En réalité, pour moi, il s'agit d'un projet politique, bien entendu, soutenu par un groupe de Tutsis. Mais on ne peut plus parler d'un projet... De grands...
Un rêve d'empire.
C'est un projet qui a existé, mais qui a évolué. Mm-hmm. Parce qu'il faut quand même rappeler que la géopolitique n'est pas statique. Donc, elle évolue en fonction des conjonctures et des conjectures aussi. Mm-hmm. Ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, Kagame et certaines personnes en Ouganda pensent, bien entendu, créer une sorte de Tutsiland en contrôlant l'Ouganda, le Rwanda, une partie de l'Est congolais et même une partie du Burundi. Mais ça ne marche pas parce que les populations, ce ne sont pas des blocs homogènes.
Bien sûr.
Donc, quand vous allez au Rwanda, par exemple, vous prenez l'histoire du génocide parce que vous avez fait allusion rapidement. Quand vous dites que ce n'est pas les Hutus contre les Tutsis, mais quand vous allez au Rwanda pendant le génocide, ce n'était pas non plus le Hutu contre les Tutsis comme on l'a présenté. Mmh. C'était en réalité une guerre civile sur fond de rivalité politique. Parce qu'il y avait des divisions entre les Hutus du Nord et les Hutus du Sud. Il y avait des divisions entre les Tutsis de l'extérieur, donc les Kagame, et les Tutsis de l'intérieur qui ne soutenaient pas nécessairement l'entreprise de Kagame. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle Kagame a sacrifié beaucoup de Tutsis quand il vient au pouvoir. Et il a dit, si des gens doivent être sacrifiés, ce sera ces Tutsis-là qu'on reprochait d'être des Tutsis par la forme de leur nez, mais des Tutsis des Hutus dans leur cœur. Mmh. Donc vous voyez un peu l'idéologie derrière. Et donc aujourd'hui, dans le cas de ce que nous observons, ce n'est pas une affaire de guerre séculaire ou je ne sais de quoi.
Oui.
C'est juste une guerre qui repose sur des ambitions et des objectifs politiques poursuivis par le maître de Kigali, en l'occurrence M. Kagame. Mmh.
Patrick Beko, chaque fois que vous faites des analyses ou vos différents livres, c'est toujours très suivi parce que vous avez une fine connaissance de ce qui se passe là. Un dernier post qui a été fait et qui a suscité beaucoup de commentaires, c'est celui où vous dites qu'on ne peut pas, on ne doit pas accuser nécessairement les États-Unis, alors que tout le monde nous dit aujourd'hui que les États-Unis soutiennent, vous l'avez dit tantôt, le M23, qui est le plus grand groupe, rebelle, ou je ne sais pas comment les appeler. Et vous dites non
Je dis non parce que c'est ça le problème, c'est qu'on applique à des à des problématiques particulières, des lectures qui sont parfois généralistes et qui ne permettent pas de comprendre ce qui se passe. Ce que j'ai dit exactement, c'est qu'on accuse les États-Unis de soutenir le M23. Je dis c'est faux. Les États-Unis soutiennent le Rwanda dans un cadre beaucoup plus global. Ça, c'est vrai parce que le Rwanda est un État. Le M23 est un groupe armé. D'ailleurs, que les États-Unis ont sanctionné, en passant, tant les États-Unis ont sanctionné certains membres, y compris l'Union européenne. Maintenant, ce que j'essaie d'expliquer est très simple. Je dis ceci. Il est vrai que les États-Unis soutiennent diplomatiquement le Rwanda, et même militairement, parce qu'ils ont ils ont un partenariat stratégique. Mais quand on parle des États-Unis, il faut toujours faire très attention, parce qu'on a pu observer aussi, depuis l'arrivée au pouvoir de Joe Biden, une certaine forme de distance et d'agacement vis-à-vis du pouvoir rwandais. Kagame avait kidnappé un opposant rwandais, Paul Rusesabagina, qui est celui dont l'histoire a servi au film Hôtel Rwanda.
Hôtel Rwanda, oui,
tout à fait. Il a été kidnappé. Le département d'État n'était pas content. Et ils ont fait pression sur le Rwanda pour qu'il soit libéré. Deuxième chose, c'est qu'il y a même le monsieur Mendez, qui est à la tête de la commission des affaires étrangères du Congrès américain, qui a écrit une lettre ouverte et qui a demandé au Congrès de sanctionner le Rwanda à cause du soutien à M23. Joe Biden lui-même a organisé une conférence sur la démocratie il y a 2 ans. Le Kagame n'a pas été invité. Il y a eu, à un moment donné, un tweet du chef de l'African Commandment, c'est le commandement militaire américain
pour l'Afrique,
qui est basé à Stuttgart à cause de Kadhafi. C'est une autre histoire. C'est que lui, il a fait un tweet en disant qu'effectivement, il était content, quand il est allé à Kigali, le chef d'Africom était content de rencontrer Kagame, de louer le partenariat stratégique militaire entre les États-Unis et le Rwanda. Un sénateur américain est intervenu dans le même tweet pour dire « ne donne pas l'impression que les États-Unis soutiennent les yeux fermés le Rwanda ». C'est pour dire que la politique étrangère d'un État est toujours particulière, en l'occurrence c'est celle d'un pays comme les États-Unis, qui est une grande puissance et qui peut avoir des stratégies diversifiées en fonction des acteurs qui sont impliqués. On l'a vu en Syrie, par exemple, je fais une digression rapidement, les États-Unis, le département d'État a soutenu des groupes rebelles qui étaient combattus par d'autres groupes rebelles soutenus par la CIA, par exemple. Pourquoi ? Parce que le département d'État peut avoir une politique qui peut être différente de celle du ministère de la Défense.
Exactement.
Et c'est ce qu'on observe, en fait, dans le cas de la RDC, dans le cas des États-Unis vis-à-vis du Rwanda. Il y a un soutien important du département de la Défense, américaine, en raison, bien entendu, du partenariat stratégique entre les États-Unis et le Rwanda. Mais en même temps, on observe du côté du département d'État une certaine forme de distance, même si on ne peut pas rompre drastiquement, parce que le département un autre segment du pouvoir américain, en l'occurrence le département de la Défense, entretient des liens avec le même Rwanda. C'est la raison pour laquelle j'ai dit non, il ne faut pas dire que les États-Unis soutiennent le M23, parce que ça n'a rien à voir. Ils soutiennent le Rwanda dans un cadre beaucoup plus global, mais pas dans le cadre nécessairement du conflit congolais que pose le Rwanda à la RDC via le M23. Et donc j'ai essayé de faire un peu d'apporter la nuance à tout ça. Et c'est important de le dire parce que les gens risquent en fait d'avancer des pistes de solutions qui ne reflètent pas nécessairement la réalité des faits sur le terrain. On le voit parce que quand vous vous attaquez aux États-Unis, à juste titre, parce qu'il y a une forme de coopération avec le Rwanda, c'est vrai, puis il faut en même temps rappeler, et c'est important de le dire, le rôle même des acteurs congolais dans ce qui est en train de se passer là-bas. Donc, et c'est ça qui me vaut parfois certaines critiques parce que moi, je ne suis pas complaisant. Je peux, en tant que Congolais d'origine, dire que ce qui se passe là, et en tant qu'intellectuel et scientifique, dire que ce qui se passe là n'est pas seulement de la responsabilité des autres. Nous avons une responsabilité dans ce qui arrive dans notre pays en tant que Congolais, et nous devons relever cela si nous voulons changer la situation.
Il y a déjà l'amorce de la réponse dans le dernier propos que vous venez de tenir. Je veux qu'on termine avec ça. Est-ce que vous voyez une piste de sortie quelque part ?
Mais ça va dépendre du rapport de force sur le terrain. Vous savez, Clausewitz a dit que la guerre est la continuité de la politique par d'autres moyens. C'est ce qu'il faut comprendre. Et donc la stratégie du M23, donc la stratégie du Rwanda à travers le M23, ne peut être comprise que si on le comprend, cette phrase de Clausewitz. Que vise le Rwanda ? Et que doit faire le Congo? C'est au Congo de comprendre la stratégie de l'ennemi pour articuler une réponse qui permet de sortir
qui soit adaptée.
Et de mon point de vue, tout va dépendre du rapport de force sur le terrain militaire. Et en ce moment même, je pense que le rapport de force sur le terrain militaire penche encore en faveur du Rwanda. Quand moi, je vois un officier supérieur de l'armée congolaise dire que nous, nous prenons nos décisions en fonction de ce que disent les politiques et que par conséquent, nous n'allons pas attaquer parce qu'on ne l'a pas demandé de le faire, je veux dire qu'il y a un problème du côté congolais.
Merci beaucoup, Patrick Mbeko. Je savais dès le début qu'on n'allait pas évidemment tout aborder aujourd'hui, mais au moins que ça permette aux uns et aux autres de comprendre un peu ce qui s'y passe et si nous, on a pu apporter une petite lueur de compréhension de ce conflit-là, ben je dis merci. Puis je dis surtout de surveiller les livres. Qu'on retrouve, vous, Patrick, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui
On peut le trouver sur le net, parce que ça dépend net, d'où... Si vous êtes en Europe, est, certaines voilà, librairies ben l'ont, mais si vous êtes ici, il faut le commander sur Internet.
Sur Internet, Amazon, particulièrement. Sur Amazon, de taper le nom. Et puis, il y a tous les livres qui vont paraître. Et donc, on a dit quoi pour avril? On attend un autre livre. Livre,
exactement.
Hein, dont on ne doit pas dire un mot, mais ça parle de politique, du moins, vraiment de manière beaucoup plus globale de toutes les différentes guerres. Merci beaucoup, Patrick. Merci d'être venu nous parler encore de ce conflit-là.
Tout le plaisir est pour moi.
Mon nom est Cyril Ekwala.